Alors, avant de parler d'Attraction Theory, si on parle un peu de ton actualité des dernières années, pour beaucoup, et je dois bien dire moi inclus, il y a eu toute la période Deadline, puis il y a un peu une disparition, dans le brouillard, enfin, en tout cas de mon point de vue, très certain de lecteurs, et maintenant donc Attraction Theory, puis il y avait eu différents festivals, etc. Donc, si on veut parler un peu de cette période
De brouillard
de transition, ou de je sais pas
de
comment...
De brouillard, alors Ben en fait, c'est simplement que je pense que la période qui peut-être être un peu moins visible pour les lecteurs en l'occurrence, c'est que je me suis plus consacré à la production, puisque j'ai c'est mon deuxième métier, c'est qu'il y a la musique ou la guitare. Je fais aussi bien de la session que j'ai remplacé ou accompagné des artistes, pas forcément du tout métal, etc. Bon, ça fait aussi partie de mes activités. J'ai eu un studio d'enregistrement pendant assez longtemps que j'ai fini par déménager, et donc ce qui a pris un petit peu de temps. Et puis oui, la production, moi je fais pas mal de choses en dehors, donc c'est sûr qu'on a dû sortir un petit peu du focus des lecteurs métal, mais moi je suis...
Au niveau production, tu peux citer quelques albums sur lesquels tu as travaillé ?
Bah, en fait, j'ai récemment fait les albums d'Asyl Empire, les deux derniers, pour rester dans le côté métal, chanteuse. J'ai fait l'avant-dernier album d'ADX, j'ai fait des groupes hollandais.
D'accord, il faut se plonger dans les notes des albums.
Voilà, Ultimatum avait été produit à M2, j'ai fait des groupes hollandais, un groupe hollandais avec lequel j'ai pas mal travaillé, qui s'appelle L'Aventura, qui est les anciens groupes des Ex-Orphanage. J'ai fait groupe canadien, j'ai fait pas mal de choses. Je suis directeur musical et technique aussi pour une troupe de spectacles événementiels qui fait des très très gros shows avec des cascadeurs, etc. Où là, c'est juste en termes de création, moi, c'est quelque chose qui me permet aussi de s'épanouir, parce que j'ai fait dans un premier temps la musique de ces spectacles, puis après la réalisation technique. Mais tu vois, le dernier spectacle en date, il y avait 34 000 personnes, donc c'est des choses qui éprennent du temps et qui, pour le coup, moi, me passionnent, parce qu'il y a à la fois l'aspect musical et technique qui sont un peu les deux choses qui me définissent, quoi. Donc
finalement, sur ces périodes-là, plutôt un agenda bien occupé et pas forcément de frustration liée à... Pas être de l'autre côté, du côté du...
Non, pas de frustration, c'est pas le mot. Non, je vais pas parler de frustration, mais à un moment donné, il y a une envie qui était... Voilà, c'est un peu au gré des projets, c'est-à-dire que t'as des choses qui t'arrivent. Moi, j'aime vraiment les deux côtés. J'aime être derrière une console, j'aime être derrière un instrument. Il y a eu toute une période où, moi, j'ai une formation d'acousticien, d'ingénieur du son, donc il a fallu créer l'acoustique, déménager le studio. Moi, dans le studio, du coup, il se passe plein de choses, métal ou pas, mais du coup, qui sont assez, assez riches. Mon cursus fait que j'enregistre beaucoup de groupes de rock et de métal, mais on a aussi fait du jazz, de la world, enfin des choses qui sont tout aussi intéressantes à réaliser. Et donc du coup, ça m'a pris du temps, quoi.
Et finalement, enfin, là aussi, je parle de mon côté, c'est un non professionnel. Il y a rien qu'au niveau purement technique, enregistrement, technique d'enregistrement, logiciel, etc. C'est foisonnant, il y a énormément d'outils. Maintenant, on a l'impression que, même peut-être en exagérant, un peu monsieur tout le monde dans sa cave, en s'y connaissant un peu, peut sortir des sons très...
Ce qui n'est pas qu'une impression.
Est-ce que avec le temps et donc l'expérience que tu as accumulée, ce travail de plutôt de production, donc plutôt derrière la console, ça devient plus intéressant, moins intéressant, différent d'il y a, je sais pas, ne serait-ce que 10-15 ans?
Ah, c'est différent, c'est clairement différent. Là je te ferai un peu...
Enfin, je sais pas, c'est plus, ça a l'air moins organique, moins...
En fait, c'est encore là où justement des gens qui ont d'expérience peuvent apporter quelque chose. C'est que c'est un peu comme si je te disais, on a tous un Word sur notre ordinateur, c'est pas pour autant qu'on écrit un roman, quoi. Donc avoir les outils, c'est une chose, mais en fait, heureusement que ça ne reste que des outils. Donc après, de savoir est-ce qu'on enregistre sur des bandes, sur un ordinateur, est-ce que le micro que tu peux utiliser dans ta chambre est le même que ceux qu'on a en studio, de toute façon la musique se définit pas, enfin, en tout cas à mon sens, comme ça. Et à un moment donné,
le logiciel qui recadre le mec s'il chante pas bien.
Oui, mais malgré tout, faut quand même à un moment donné, plus on va dire que le logiciel, il peut faire ça, mais c'est pas sa fonction première. Je veux dire, la fonction première des outils, et moi je le vois pour le coup en technique, je suis pas du tout un nostalgique, je trouve qu'il y a des choses magnifiques. Moi j'adore enregistrer sur un magnéto à bande avec une vieille console et faire un one-shot avec un groupe, voilà. Mais à la base des outils, en tout cas l'évolution des outils d'enregistrement, il était là pour servir les artistes, c'est-à-dire que quand tu fais une prise avec un groupe qui a tourné, qui a quelque chose à dire, tu dis c'est quand même dommage si par exemple tu fais une prise complète, le chanteur ou la chanteuse te fait une interprétation qui est super prenante où l'émotion est là, tu dis non c'est dommage, dans le refrain là t'as détonné un petit peu, c'est pas grave, parce que du coup là t'as un outil qui te permet de dire bon voilà, de recaler quelque chose comme ça. Après il y a une utilisation abusive qui en est faite dans certains styles de musique, heureusement même si le rock tombe là-dedans aussi, mais justement le réalisateur est là un peu pour servir ça, c'est de venir servir un peu de garde-fou, dire bon quand est-ce qu'on utilise les outils, quand est-ce qu'on utilise les outils au service de l'artiste et pas voilà les dérapages entre guillemets de certains outils dans la production, c'est souvent mis au service de gens qui fondamentalement sont pas artistes à la base, quoi. C'est là après un bon musicien, quel qu'il soit, si une chanson est bonne, que tu recales un truc ou pas, ça va pas changer la perception, parce que, et qui plus est maintenant, parce qu'en fait dans un sens on est revenu à quelque chose comme tu dis où les outils d'enregistrement se sont démocratisés, donc un peu comme si ouais c'est l'exemple que je te prenais, tout le monde a Photoshop, c'est pas pour autant que tu sais faire une belle photo, tout le monde fait des photos avec son portable, on n'est pas tous des Cartier-Bresson quoi, quoi. Donc il y a, et dans l'enregistrement c'est pareil, les gens ont beau avoir l'outil, c'est-à-dire un logiciel, un micro, se dire bah tiens je vais mettre ça sur une batterie, c'est pas pour autant qu'ils vont tous avoir le son de Bonhomme ou de Mike Portnoy, quoi. Donc c'est là où ton apport il peut être là, c'est de servir l'artiste ou la chanson en disant voilà attention, il faut, si vous voulez tel résultat, il y a plusieurs moyens d'y arriver, c'est soit effectivement on fait une captation sincère et live comme vous êtes là, si ça peut être des titres qui sont très produits parce que c'est un désir, c'est pas forcément, les outils modernes sont pas forcément là pour contrecarrer des artistes, il y a plein de styles de musique dans la musique électro, dans des choses où effectivement le fait de pouvoir jouer, de faire des sons chez soi, c'est plutôt une bonne chose, selon moi. Moi, l'avènement des home studios, je trouve ça très bien parce que ça permet à un artiste de pré-produire ses chansons, de maqueter, de dire tiens, en fait, de se rendre compte de certaines choses. Tiens, je suis pas en place. Tiens, à ce son-là, c'est pas comme ça que je le voyais. C'est du gain de temps en studio réel pour utiliser un studio pour ce que c'est faire, c'est-à-dire de capter un instant en disant voilà, on va tirer le meilleur parti d'une chanson. Et là, parfois, pour choisir quel est le bon instant, on a besoin de gens qui ont un recul nécessaire et dans lequel les artistes ou la maison de disques ou les gens qui te confient les projets ont confiance, en disant bah, tiens ce gars-là il va savoir où s'arrêter dans tout ça. Maintenant les outils, donc c'est dans ce sens-là où ça a évolué, c'est-à-dire que parfois tu vas récupérer des projets où les gens vont dire bah non écoute moi je préfère faire mes solos chez moi et puis on va les réamper après parce que tu comprends je suis plus zen quand je joue tranquille chez moi, et c'est pas forcément un problème de technicité en disant bah tiens le gars s'il va en studio ça lui coûte trop cher ou il va pas être assez rapide. Il peut être simplement plus dans sa bulle en créant chez lui. Et je trouve que justement d'avoir un outil, dire tu prends un ordinateur portable et tu vas dans une loge et de capter un instant et de le mettre en forme dans un studio, ça moi je trouve que c'est une avancée fantastique, c'est-à-dire que ça permet à un groupe qui est en tournée, si tu remontes dans les années 70 où les groupes étaient en tournée en permanence, à un moment donné on met un studio en gros n'importe où, c'est-à-dire que là on a une idée de chanson, au lieu de se mettre dans un univers on va aller en studio, en fait maintenant je peux prendre un portable, prendre des bons micros à mon point, j'ai 2 heures, je vais faire quelque chose. Après on a besoin de quelqu'un pour ranger tout ça et le trier, et dans ce sens-là les outils et l'évolution des techniques d'enregistrement est fantastique parce que ça permet de faire ça, c'est de dire maintenant on peut enregistrer beaucoup de choses, maintenant à l'inverse on peut aussi surproduire et effectivement avec un outil on peut faire chanter à peu près n'importe qui et voilà, mais paradoxalement le marché du disque a fait que on vend plus de disques, Donc le seul moyen de vendre des disques, c'est d'aller en concert, et que souvent ce que les gens veulent, c'est retrouver ce qu'ils ont aimé en concert. Donc on revient à finalement ce qu'il y avait dans l'industrie musicale il y a quelques années, c'est-à-dire que finalement un groupe qui est surproduit paradoxalement. Tu sais, quand on va... Moi, je travaille de plus en plus avec des anglo-saxons ou des américains, et paradoxalement, lorsque tu envoies une démo qui a été faite en home studio ou autre chose comme ça, dans l'esprit des gens qui la font, on se dit, bah, tiens, on va produire, on va avoir le temps, etc., etc. Sauf que certains décideurs, des promoteurs, des concerts, etc., pourquoi ils vont regarder la vidéo YouTube? Pourquoi ils vont... Parce qu'eux, en fait, se disent, justement, maintenant l'industrie a bougé, si ça se trouve, ils ont enregistré chez eux, ils ont mis des sons, ils ont mis des machines à la place de la batterie, ils ont retuné la voix, ils ont mis la guitare, machin. Donc soit je veux voir le groupe live, ou soit je veux entendre de ce qui sort d'un studio quelque chose qui sonne authentique, et pas où on a l'impression
d'entendre... Quelle est la
d'entendre.
Vérité du groupe.
Quelle est la vérité du groupe. Et c'est là où finalement les studios, le studio d'enregistrement tel qu'on le connaissait a évolué en termes des outils, mais sert aussi de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que quand on entend un son de batterie qui n'est pas le même que tout le monde, pas avec les mêmes sons de batterie, les mêmes sons de guitare qui sont issus de tel simulateur ou tel truc, etc., on va retrouver le toucher du guitariste, l'interprétation du chanteur, et que là, du coup, on revient un peu à l'ancienne de se dire, mais tiens, finalement, une one take qui était, et si tu regardes les beaucoup d'anglo-saxons, c'est pour ça que paradoxalement, beaucoup de sons européens sont très formatés, et on a fini par être plus formatés que les sons américains. Si tu regardes le dernier album comment s'appelle, Prophet of Rage, par exemple, le son est hyper authentique. Tu te dis, mais on était dans la pièce avec eux. Tu regardes même les groupes, pour rester dans le métal, les groupes de métal extrême, ils n'ont pas tous, en tout cas les groupes américains, cette espèce de son avec des samples sur la batterie, avec super compressé, etc., trigué, etc. Voilà, tu écoutes, là, le dernier en date, c'est, enfin, moi, dans ce que j'ai écouté, c'est Son of Apollo, quoi, où là tu dis Portnoy qui pouvait plus supporter d'entendre des triggers. Moi j'étais allé une fois à un workshop de batterie qui était assez amusant, c'est qu'en fait il y avait Portnoy qui était là, et puis des gens qui posaient des questions, et disaient, est-ce que tu peux m'expliquer comment t'as fait tel break sur Imagine World? Donc Quel morceau tu parles? Mais si, le break, il est pas dans la... Il dit, mais en fait, moi, j'ai jamais joué ça. En fait, c'est... Moi, j'ai joué un frisé de caisse claire normal, et en fait, quand ça a été trié, c'était pas de mon fait, c'était le producteur et la maison de disques. Ça a enlevé des notes, et donc depuis, je veux plus qu'on me trigue. Je veux ce que j'ai joué apparaisse, quoi. Et ce qui est paradoxal, c'est que du coup, à force d'avoir voulu surproduire, par exemple, si tu parles du métal progressif, les sons par exemple d'Images of Our Own World a clairement influencé plein de groupes européens qui se sont mis à mettre des samples en se disant on va déclencher en plus de notre batterie des sons parallèles, ce qui est effectivement une technique d'enregistrement, mais quand tu produis des albums j'en sais rien, comme de pop, comme Pink, etc., tu vas te servir des sons en parallèle pour aller chercher dans des sons électro des fréquences que t'as pas dans des vrais sons, et en fait c'est le but des choses. Et là encore, quand tu le déformes, tu le remplaces, et finalement tu finis par sonner comme tout le monde, puisque oui, du coup tu as les mêmes banques, les mêmes manières d'enregistrer, etc. Ouais. Et c'est pour ça que beaucoup de productions, en l'occurrence américaines ou anglaises, sont beaucoup plus roots, parce que eux veulent retrouver ça. Et finalement, quand t'envoies une démo pour un label ou quoi que ce soit, eux c'est ce qu'ils veulent chercher. Et à l'inverse, maintenant, ce qui était une qualité avant, c'est tiens, c'est produit, c'est léché, c'est compressé, c'est trigué, j'ai le même son que le dernier machin, maintenant ça devient un handicap. C'est à dire qu'on dit, mais non, en fait, s'ils ont fait ça, c'est à dire qu'ils ont utilisé le même banc, ils ont enregistré, donc ok, mais mets moi un magnéto, mets moi une vidéo YouTube, ou mets moi quelque chose
qui déconstruit la construction du son, quoi.
C'est ça.
Okay. Donc si on revient sur Attaché aux théories, comment est née l'aventure, comment tout ça a abouti sur cette IP?
Ça a commencé avec ma rencontre avec Constance. On s'est rencontrés.
Elle était Wisdom à l'époque ou
Non, c'était bien après. Elle a fait plein de choses de Wisdom, de la comédie musicale, Elferia, des projets électro. Enfin bon, voilà. Donc on s'est rencontrés dans un happy hour organisé organisé par le directeur artistique d'Ibanez, en fait, de Mogar, qui s'appelle Florence Liva, qui faisait une sorte de rencontre mensuelle où il invitait plein d'artistes, des réalisateurs, des fabricants, des instruments, tout un tas de choses comme ça, et il faisait une sorte de pot où il y avait plein de gens qui se rencontraient, donc on s'est rencontrés comme ça. Où elle devait chanter sur un groupe que j'étais censé enregistrer. Finalement, ça s'est pas fait. Mais on s'est rencontrés comme ça. Elle m'a recontacté quelques mois après pour enregistrer ses voix sur un duo qu'elle faisait pour un groupe anglais. Et donc là, du coup, arrivé en studio, découvert de la voix en studio, j'ai quand même grand registre, super voix. Et tiens, en fait.
Et tu avais déjà des trucs de côté, parce qu'en permanence, tu composes, tu.
J'avais.
Un coffre au...
Oui, enfin, j'ai toujours des. Fatalement, puisque tu joues, enfin, il y a toujours une guitare qui traîne, etc. Ouais. Mais paradoxalement, quand. Là, en l'occurrence, c'était plus l'envie de dire, tiens, voilà, sur l'instant, qu'est-ce qui se passe avec un instant T, avec les gens qui sont là. Donc, en fait, même s'il y avait un peu d'idées qui servaient à droite à gauche, on n'était pas du tout dans le recyclage. C'était plutôt, tiens, si on fait quelque chose là, qu'est-ce qu'on ferait maintenant, en fait. Et donc, c'est arrivé comme ça. On a commencé à écrire des titres sans but précis au premier plan, puisque bon, elle savait pas si elle allait refaire un album solo, si moi c'est pareil, j'avais vaguement des choses qui étaient un peu en travaux dans ce sens-là. Voilà, donc on a fait les titres, et après les titres se sont additionnés, on a été les jouer dans différents contextes, et ah tiens, ça commence à être un peu cohérent, et l'idée de faire le groupe est arrivée. Voilà.
D'accord. Finalement, pourquoi un EP et pas un album complet ?
Bah, là encore,
c'est un peu l'intérêt du public.
C'est pas vraiment ça. C'est là encore, on parlait de revenir un petit peu aux fondamentaux en ce qui concerne la production, mais c'est un peu pareil. Quoi, fut une époque où tu jouais les morceaux en concert et puis tu sortais un single et puis éventuellement si les gens, ils voulaient garder les versions qu'ils avaient aimées en concert, tu sortais un album. Et là, c'est un peu le paradoxe du moment, c'est qu'en fait finalement une partie du public consomme des albums comme des singles, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a plus vraiment maintenant quand on est sur iTunes ou sur Deezer, ou Spotify, en fait on consomme un album un peu comme une succession de singles où du coup c'est difficile de faire un album cohérent parce que finalement les gens zappent, vont aimer telle ou telle chanson, vont acheter, mettre dans leur playlist tel ou tel titre et pas forcément s'intéresser à l'album en tant qu'unité et écouter l'album avec un début et une fin. Voilà, c'est ça, c'est un peu une compilation de titres, donc pourquoi pas revenir aux fondamentaux, dire bah, effectivement si vous voulez faire ça, on va vous, entre guillemets, vous sélectionner déjà certains titres pour dire voilà, au jour d'aujourd'hui Attraction Theory c'est ça, c'est un peu de ça, c'est des chansons, c'est peut-être des choses qui sont plus orchestrées ou plus rock ou plus métal, mais dire voilà, et puis de se présenter parce que ça allait un peu de soi. Une partie des gens qui nous avaient connus dans des projets précédents voudraient savoir ce que c'était, etc., etc. Donc il fallait une phase de...
Donc l'idée, ça peut être plutôt, en tout cas pour un début, des EP plus réguliers qu'un espèce de blanc de 1 ou 2 ans et sortir un album.
Non, il y aura un album l'année prochaine, mais...
Vous voulez une
première carte de visite pour se présenter au public et puis dire voilà... Voilà ce qui risque de vous arriver, de faire quelque chose qui soit, même sur un format EP, qui soit suffisamment ouvert pour dire, attendez-vous à rien en fait.
Alors, autre question, moi je suis très content parce que je suis toujours attaché à l'objet et en plus c'est un peu digipack, etc. Il n'y a pas eu l'idée de sortir que en digital ? Il y a un moment ou un autre, on s'est dit, il faut quand même une version physique.
Il y a un moment ou un autre où forcément, la version physique est quand même utile dans le fait où les gens restent attachés à l'objet, surtout quand tu fais des concerts. Ils veulent repartir avec l'objet, pour l'avoir en merchandising, etc. Et qu'il y a quand même une quantité de gens qui qui reviennent. Alors bon, c'est marrant par quel vecteur, parce qu'en fait on a plus en plus de gens qui consomment du vinyle, etc. Là, pour avoir un artwork, pour finalement avoir des paroles, pour savoir qui a joué dedans, pour savoir comment ça a été produit, etc., etc. Et là encore, c'était une manière de laisser personne de côté, de dire bah, tiens, on peut aller faire un showcase chez Gibert. Et on se demandait mais pourquoi aller faire un showcase chez Gibert, mais qu'est-ce qu'il y a de si surprenant d'aller présenter un disque chez un disquaire, en fait, tant qu'il y en a encore.
Et il y a quelques années, c'était archi classique, je pense.
Ouais, c'est ça. Et ce qui est assez marrant, en tout cas, avec l'aventure d'Attraction, c'est que on est allé présenter le disque d'une manière simple chez un disquaire, en l'occurrence Gibert, on va le faire aussi dans d'autres endroits, et que dans le même temps, on rentrait dans les charts d'iTunes. Donc on dit tiens, là, du coup, il y a vraiment quelque chose de multigénérationnel, de dire voilà, on n'est pas là pour imposer aux gens, vous devez consommer de la musique comme ci ou comme ça. Mais bon, moi, le premier, je suis content qu'il y ait un artwork, d'avoir autre chose qu'un timbre poste sur une playlist d'iTunes, et que finalement, de s'apercevoir qu'il n'y a pas que des nostalgiques qui ont envie d'acheter des CD, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, mais nous, on a envie d'avoir l'objet, on a envie d'avoir le et bon, c'est assez marrant de voir dans un univers dématérialisé que finalement, on revient...
Moi, ça va être intéressant de voir dans les années qui viennent, parce que donc, les gens sont attachés à l'objet, et donc l'objet se met un peu en arrière-plan par rapport effectivement aux iTunes, machin. Mais est-ce que tout le jeu du j'ai un album, j'ai un artiste qui me plaît, je lui fais signer, mais si c'est sur iTunes, je vais pas lui faire signer rien.
C'est ça.
Donc c'est intéressant de voir comment ça va évoluer, ce type de.
Ouais, mais c'est ça qui est intéressant. Moi, je vois dans l'évolution du marché de la musique. Bon, le technicien que je suis regrette. Certaines révolutions qu'on a, à mon sens, loupées. C'est-à-dire que là, moi, je suis très content qu'on revienne au vinyle. J'aurais préféré qu'on soit au Blu-ray audio, parce que on a loupé un virage artistique qui, pour le coup, que ce soit pour les auditeurs ou pour les artistes, était aussi passionnant que le passage de la mono à la stéréo.
Là, ce que je veux dire, c'est que l'utilisation a coupé tout progrès sur l'objet physique.
La digitalisation a coupé une certaine manière d'écouter de la musique. Alors, en tout cas, à un moment donné.
Les gens écoutent beaucoup, je suis le premier à faire, du MP3.
Bien sûr.
Qui, quand on le sait, écrase beaucoup de choses.
Bien sûr.
Sans s'en rendre compte que, alors maintenant, il y a eu des offres, lossless, etc., qui se sont développées. Mais pour la plupart des gens, il y a des morceaux, je pense, qu'ils ne connaissent pas vraiment, parce qu'il y a la moitié qui sont écrasés par un MP3.
Et ce qui est assez surprenant, c'est de voir des nouvelles générations qui sont achètent le vinyle pour l'objet. Mais tiens, c'est vachement bien, c'est espèce de gros truc complet. Il y a une belle image dessus, c'est vachement bien. Puis un jour ou l'autre, ils le mettent dans la chaîne du père. C'est mieux que sur mon téléphone.
Ah oui, parce que je n'avais pas entendu tel ou tel.
Mais en fait, où ça a réellement changé les choses, c'est qu'il y a eu un moment T où on consommait de la musique que de manière nomade. C'est-à-dire que, évidemment, c'est agréable de se balader avec son téléphone, d'avoir 500 titres dans sa playlist et de pouvoir l'écouter dans le métro, en voiture et partout. Mais comme on a toujours fait, fut une époque où on était obligé de graver un CD,
les cassettes.
Donc on a toujours eu ce côté nomade de se dire tiens, on a envie de faire un footing en écoutant son disque préféré. Par contre, on a perdu le côté sédentaire. Et là, une partie des gens, en mettant des objets physiques dans une chaîne qui a elle aussi évolué, retrouve, et là c'est plus un problème de style musical, c'est un problème de musique tout court, c'est qu'en fait quand on met un disque de dance, les gens qui ont l'habitude de sortir le samedi, ils disent putain c'est bien, je retrouve ce que j'avais en boîte de nuit, ceux qui aiment le rock et qui aiment les concerts avec l'énergie qu'il y a, tiens c'est quand même mieux que sur mes enceintes multimédia, et en fait on ramène indirectement les gens à avoir un son sédentaire qui est plus produit, qui est plus proche de finalement ce qu'ils aiment, puisqu'en fait pour certains ils vont consommer de la musique en concert et ils retrouvent ça, ils retrouvent cette énergie beaucoup plus qu'avec des écouteurs et une enceinte multimédia ou un iPhone à burn, quoi. Donc et après d'avoir là encore il n'y a pas de vérité ultime, d'avoir des MP3 pour écouter dans le métro et d'être content dans une soirée avec ses potes de faire écouter le dernier disque à la mode et tiens le son de batterie, les guitares, le son comme ci comme ça, on revient à ça. Et bon, après, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, on aurait pu ne pas le perdre. C'est-à-dire que la révolution du numérique, qui aurait dû être le DVD audio ou Blu-ray audio, où là, en plus, artistiquement, on avait un choix qui était terrible. C'est-à-dire que autant les Beatles sont passés de la mono à la stéréo, là, on pouvait dire, mais toi, en tant qu'auditeur, t'aimes bien aller voir un groupe. Mais en fait, je peux te donner, moi, en tant qu'artiste, un truc qui est terrible. Tu peux être le batteur du groupe, tu peux être Metallica. En fait, tu peux entendre le groupe en écoutant de la place de Lars Ulrich. Tu peux devenir spectateur si tu as envie de voir ton concert entendre la salle, entendre l'ambiance, entendre le public, entendre des effets. Ou alors, si c'est une musique très produite, comme certains albums de Floyd, etc., ben on va te mettre dans un univers où tu vas être en trois dimensions. Et on a perdu cette révolution-là, parce que là, pour le coup, on l'a plus, parce que ça oblige à avoir un système physique, c'est-à-dire d'avoir avec des enceintes qui sont spatialisées, et de retrouver finalement ce qu'on aime, c'est-à-dire d'aller à un concert et de dire non, mais tiens, mais moi ce que j'aime à un concert, c'est le groupe, mais c'est l'interaction qu'il y a avec le mec d'à côté qui est en train de sauter en l'air et en train d'hurler parce qu'il s'éclate sur son morceau. Et c'est dommage qu'on ait loupé ce virage-là, en tout cas technique. Maintenant, voilà, le fait qu'on revienne à du son un petit peu plus sédentaire, sans que ça soit au détriment d'autres choses, permet de consommer la musique autrement.
D'accord. Donc, sur Principia, vous présentez quelques titres. Il y en a beaucoup en gestation, en stock, prêt.
Il y a une bonne partie de l'album qui est déjà
2018, prêt. C'est un objectif clair pour de.
Oui, clairement. Enfin, 2018, c'est concert, bien évidemment, parce qu'on en a très envie, et l'album, oui. Donc.
Donc, en parlant de ton concert, donc il y a eu, je pense, enfin, peut-être deux assez marquants, le PMFF et le Faire-toi. Voilà, ça s'est passé comment? C'est là aussi pour une partie publique, c'était ils connaissent, ils connaissent pas, ils connaissent individuellement les artistes, mais pas Fashion Theory.
Bah c'était ça qui était intéressant, c'était en tout cas pour le PMFF, c'est d'arriver, les gens savent pas ni ce qu'on fait, ni. Justement, l'idée c'était un peu de casser les codes là où tout le monde met des vidéos YouTube, des vidéos de répètes, de concerts, de machin, on est en studio, on est ci, on est ça. Là c'était, mais venez découvrir quoi.
D'accord.
Venez découvrir.
Parce que là vous aviez rien à vendre, vous aviez pas ni de version digitale, ni de disque physique. C'était les seuls moyens de vous écouter,
c'était de venir. Voilà. Okay. Je pense que pour découvrir un groupe de rock, c'est un bon préambule. ça a fait ses preuves dans le passé, en tout cas.
Et sur Faire-toi?
Sur Faire-toi, c'était un petit peu différent parce qu'il y avait déjà des gens qui avaient entendu parler, etc. Mais c'était un petit peu. Sur Faire-toi, c'était autre chose parce que la scène était plus grande, on avait plus longtemps, donc ils ont pu découvrir plus de titres. Le PMFF, c'était un petit peu comme l'EP, c'est une introduction, on vous en trouve la porte.
C'est très intense mais court.
Voilà, c'est ça. Mais le Faire-toi, on avait plus de place, plus. Donc les gens ont pu découvrir d'autres titres, d'autres titres que ceux qui sont sur l'EP.
C'est ça, c'était vraiment une mise en bouche sur l'avenir. Justement, tu parlais de l'intérêt et l'importance que pouvait avoir le fait d'avoir un visuel, une pochette. Comment vous avez travaillé avec Mithridate? C'est-à-dire avec une description très claire de ce que vous vouliez, ou plus l'artiste travaille sur la musique, ou...
Ça a été un mélange de ça. Le premier critère, c'était qu'on aimait ce qu'il faisait, justement, parce que par rapport à la musique qu'il y avait dans l'EP, ce qu'on avait vu comme artwork, etc., c'était déjà un univers qui nous parlait. Il y avait là encore cette volonté de jouer avec le temps, c'est-à-dire moi je fais évidemment partie des clients d'avoir une belle pochette avec des détails dans lesquels on peut fouiner et tout ça. Maintenant la réalité du marché du disque aujourd'hui, c'est que ta pochette, c'est un timbre poste sur une fenêtre iTunes, donc il faut que ça soit lisible. Malheureusement, si tu regardes la musique dans son aspect le plus commercial, ça se termine souvent avec le visage du chanteur ou de la chanteuse en gros plan, parce que forcément si tu vois pas l'artiste et si tu vois pas le nom du projet, c'est compliqué. Donc ce qu'on a trouvé avec Mithridate, il y avait à la fois ce côté de se dire voilà, je veux quelque chose qui soit identitaire, c'est-à-dire que les gens puissent identifier, dire voilà, Attraction Theory, c'est quoi? C'est le truc avec le visage ou le triangle ou l'un ou l'autre, donc quelque chose qui soit lisible, même en petit, sans tomber dans les canons du truc où c'est on met l'artiste en grand et voilà, et en même temps on puisse aller chercher des détails. Mais dans un deuxième temps, et ce qu'on aimait bien dans le travail de Michael, c'était ça, c'est qu'en fait dans ses artworks, dans tout ce qu'il crée, il y avait ce côté lecture à deux niveaux. Donc on a on a juste accentué ce côté-là. Mais voilà, on veut que ça soit à la fois lisible et identitaire pour quelqu'un qui va avoir passé la pochette en petit dans sa fenêtre iTunes, mais que celui qui va acheter le CD puisse voir l'artwork, puisse aller y trouver, à trouver des détails, y trouver des choses.
S'il voit un AT, il peut se dire ça, ça me rappelle quelque chose.
Ah bah c'est ça, forcément.
D'accord. Finalement, voilà, à moyen long terme, qu'est-ce qui est dans les tuyaux et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qui est dans les tuyaux et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que les gens continuent à être intéressés par ce projet, parce que là, pour l'instant, les retours qu'on a sont plutôt positifs. Donc ça, c'est super agréable, parce que effectivement, comme tu disais, en tout cas pour certains d'entre nous, on a disparu.
Et avec ton expérience, t'as encore un doute, est-ce que potentiellement tout le monde s'en fout?
Ah mais
personne va aimer, je sais pas.
C'est pas une histoire d'inquiétude, c'est une histoire de réalité. C'est qu'il y a tellement d'artistes, il y a tellement de bonnes choses.
Ah, c'est plus le risque d'être perdu dans la masse.
Oui, non, c'est de se dire qu'effectivement les projets sont nombreux, de qualité. Je trouve que la proposition musicale a vraiment évolué dans le bon sens d'une manière générale. Les gens ont accès à la musique. Paradoxalement, ils en ont jamais si peu acheté, mais ils en ont jamais autant consommer et que dans tout ça, est-ce que ce qu'on leur propose et l'univers qu'on leur propose va les intéresser? Mais oui, ça fait partie du... Moi j'ai une espèce d'ambivalence entre le côté
du créateur, enfin la...
Bah oui, bah, parce que je pense que quand t'es derrière une guitare en train de faire tes accords, t'es pas en train de te dire tiens c'est gagné sous prétexte j'ai fait telle ou telle chose, et voilà, non, c'est...